7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des élites noires en France et ailleurs. Tous les deux ans, le Club Efficience publie le Gotha noir de France, qui est devenu en fait le Gotha européen. Cet annuaire est né à l'origine pour mettre en lumière des parcours, des talents de la diaspora africaine et caribéenne de France. Entrepreneuriat, politique, spectacle, les élites noires sont-elles visibles? Dans un pays où les statistiques ethniques sont interdites, le plafond de verre est-il plus dur à percer qu'ailleurs, en Europe ou en Amérique du Nord? Le Gotha noir peut-il profiter à l'Afrique? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une question qui doit être posée? On va en discuter avec nos invités qui vont déjà nous dire s'ils se reconnaissent dans ce principe de Gotha noir et plus largement comment ils voient leur place dans la société française. Solange Siyangé, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous, forcément, vous adhérez au principe du Gotha noir puisque vous êtes avocate, vice-présidente du Club Efficience, qui a édité le Gotha noir. C'est la cinquième édition
maintenant. C'est la cinquième édition et comme vous le disiez assez justement, depuis maintenant 2-3 ans, nous publions le Gotha noir d'Europe, qui ne s'intéresse plus seulement à la France, mais à toute l'Europe, parce que la diaspora, l'élite est partout.
Également avec nous, Guylaine Hierceau, économiste, géographe, entrepreneuse. Bonjour Guylaine Hierceau.
Bonjour.
Vous êtes membre du Club du 21e siècle, qui œuvre pour une vision positive de la diversité. Je sais que vous n'aimez pas ce mot.
Ah non, je n'aime pas ce mot parce que la diversité, c'est tous. Enfin, je ne l'aime pas. Si, j'aime beaucoup le mot diversité. Comme on dit en Europe, unis dans la diversité. Mais ça représente le monde. Comme je dis, quand on dit le mot diversité, tout le monde doit se lever. Alors, puisque le mot diversité aujourd'hui est souvent ethnicisé, j'aime bien parler du monde pluriel et du tout le monde, comme dit Édouard Glissant.
Un Allemand en France, c'est la diversité aussi. C'est ce que
tout
vous voulez dire.
Tout à fait, oui. Je veux dire, c'est l'utilisation du mot, d'ailleurs, que nous ne retrouvons pas la même utilisation dans les pays anglo-saxons. Ce que j'aime, c'est parler du monde pluriel. La sémantique, on verra avec notre ami, est importante, la linguistique. Mais surtout, montrons que nous sommes du monde pluriel et du tout le monde.
Et bien sûr, on va s'appuyer sur vos propres parcours, hein, bien évidemment. Alimata Fofana, bonjour Alimata.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, ex-enseignante. Vous avez publié un roman très remarqué, plus ou moins autobiographique, d'une adolescente française, écartelée entre tradition familiale sénégalaise et tradition scolaire républicaine. Mariama l'écorché vive chez Cartala. Et vous n'êtes pas tendre sur les dysfonctionnements de ces deux mondes qui s'ignorent d'ailleurs. On sera également en ligne avec Fod Adangsounou qui est ingénieur aéronautique chez Airbus. Et bien sûr, quant à vous, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, vous avez la parole sur le sujet des diasporas et de la diversité et des minorités visibles, invisibles dans des pays européens ou en Amérique du Nord. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp, et vous pouvez nous envoyer donc aussi des messages écrits.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
Solange Siyangé, Guylaine Hierceau et Alimata Fofana. Forcément, j'ai envie de vous interroger quand même sur ce qui s'est passé en France ces derniers mois. La France a quand même vécu au rythme de la révolte des Gilets jaunes. Et forcément, vous avez remarqué, comme moi, que lors de ces défilés à Paris, dans une ville multiculturelle, ce qui avait très frappant, c'était la monocouleur des défilés. Je ne parle pas du gilet jaune, je parle de la couleur de peau. Quasiment personne n'avait la peau foncée ou métissée. Ça semblait un peu singulier quand même sur des avenues, alors qu'il suffit de descendre dans les rames du métro pour à nouveau recroiser une diversité de physique. Comment vous avez vécu, vous, respectivement, ces révoltes en tant que citoyenne française, Guylaine Hierceau?
Bon, écoutez, moi d'abord, je le vois d'une approche économiste et géographe. D'abord, il faut quand même voir d'où viennent les gilets jaunes, la majorité. Hein, c'est souvent du monde rural, du monde périphérique, et peu du monde urbain et du monde parisien ou autre, ou dans les grandes villes. Donc c'est aussi le pourquoi de la représentation faible ou quasi inexistante des personnes, comme vous dites, colorés, hein, du monde du tout couleur. Donc, et les CSP aussi qui sont représentés. Vous avez beaucoup de monde agriculteur, de monde ouvrier. Et les tout couleur, puisqu'on va les appeler comme ça pour l'émission, le monde pluriel
n'est
pas représenté.
Hein,
non, non, c'est moi qui le choisis. Le monde pluriel, donc, est peu représenté. Je rappelle aussi que les, au plus grand, c'était à peine 300 000 personnes. Donc, c'est important. Bien évidemment, je ne nie pas l'importance des Gilets jaunes. Je dis simplement, il faut voir géographiquement d'où ils viennent, économiquement et socialement d'où ils viennent. Mmh. Alors, ça n'explique pas tout. Effectivement, peut-être aussi que le monde périurbain ne s'est pas d'abord, a priori, senti concerné par le sujet au départ, puisque c'était au départ sur la transition écologique, sur la question de la taxe carbone, la taxe pétrolière. Donc voilà, il y a peut-être un peu l'approche. Et puis après, arrivé en route, bon, il y en a quelques-unes. Je rappelle quand même que vous avez une Martiniquaise qui était en pointe sur les gilets jaunes. Moi, j'avoue que je suis peu désolée, mais je vais laisser la parole
et vous,
à
vous, Alimata Fofana, comment vous avez vécu ce mouvement?
J'ai été dans un premier temps surprise de voir ces personnes descendre, revendiquer, oser s'affranchir. Parce qu'il y a les personnes qui étaient dans la rue, il ne faut pas oublier que de nombreuses personnes n'ont pas l'habitude de descendre dans les rues. Ça qui était aussi intéressant, sont des gens qu'on a poussés à bout et qui se sont dit, ben, il va falloir se faire entendre. Alors je rejoins ce que vous disiez, Solange, précédemment, dans le sens où... Pardon, Guylaine, excusez-moi.
Mais sur la visibilité des cortèges, sur le côté monocolore, ça vous a frappé ou pas du
non,
tout?
Non, mais on a soulevé cette question quand Johnny Hallyday est décédé. On a exactement dit la même chose en disant bah, c'est quand même étonnant, il y a deux France, il y a la France de Johnny Hallyday et il y a les autres. Moi, je pense que dans les banlieues, ils se sentent concernés parce que quand Emmanuel Macron a été en banlieue, je crois qu'il a été à Évry où il a eu un échange avec les habitants leur ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent. Mais les difficultés sont différentes, parce que quand on écoute les personnes qui vivent en banlieue, moi je me souviens d'une mère de famille, elle posait de la question de l'école et de l'absence des enseignants. C'est ça qu'elle avait mis en exergue. Voilà, et c'est vrai que dans le monde agricole, on va mettre d'autres problématiques. Beaucoup moins. Il faut pas oublier aussi que en banlieue, pas partout, mais en grande majorité, nous avons accès au transport en commun. Dans le monde de la ruralité, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile et c'est quasiment une obligation d'utiliser la voiture.
Des difficultés économiques communes, mais qui s'expriment pas avec
de la
les
même
mêmes
manière.
Problèmes.
Et il faut pas oublier qu'en 2005,
en
2005, les banlieues se sont réveillées.
Voilà. Alors, Solange.
Pardon.
je rejoins un peu cette analyse, mais je compléterai, en fait, c'est mon sentiment personnel. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gilets jaunes se sont plus ou moins révoltés, mais c'était un peu la goutte d'eau, hein, cette affaire d'essence. Mais je dirais que est-ce qu'on peut parler de communauté noire? Je ne sais pas si ça dérange, en tout cas, d'employer ce terme. On peut l'utiliser. En tout cas, bon, les banlieues, etc., vivent déjà dans des difficultés depuis longtemps. Je dirais que le prix de l'essence, en plus, ce sera pas pour eux le summum. Il y a cette histoire qu'il faut mettre en avant des augmentations de frais de scolarité qui ont vu certains étudiants manifester, mais ils étaient peu nombreux.
L'augmentation des frais d'université
exactement.
Pour les étudiants non européens, concernés au premier chef
exactement.
Les étudiants africains avec
exactement.
Voilà, et ça et c'est qui, un autre type de contestation.
Et voilà,
mais ce qui est intéressant, c'est que trois mois avant, quand même, le démarche des Gilets jaunes, la France remportait la Coupe du Monde. Alors là, avec une vraie diversité. Enfin, je sais que vous aimez pas ce mot-là, mais célébré dans tout le pays. D'ailleurs, le Gotha noir européen, il y a une préface de Pape Diouf, l'ancien président de l'OM.
Exactement. Alors en fait, pour compléter ce que je m'apprêtais, enfin ce que je disais, c'est que mon constat, en tout cas en France, c'est que les Noirs en général manifestent peu. En général.
À l'île de la Réunion, on a beaucoup manifesté.
Oui, en métropole.
Je devais y être.
Vous parlez métropole. En métropole.
Je devais être à la Réunion et je n'ai pas pu y aller parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes qui était fort.
Exactement.
Ça ne veut pas dire. Il faut aussi voir le pourcentage de personnes issues. Je n'aime pas parler de communauté noire, mais le monde pluriel, le pourcentage est relativement faible par rapport
au territoire national. Oui, mais néanmoins, les manifestations. En général, vous constaterez que ce soit Johnny Hallyday ou n'importe quoi, il y aura peu en général, voilà, de personnes, moins, beaucoup moins, de la diversité. Et même quand il y a, je dirais, des mesures qui nous touchent, vous en verrez peu dans la rue. Voilà, moi, c'est mon constat. Après, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est,
alors,
ça, c'est un peu ça en général.
Revenons au principe du Gotha noir européen qui, par définition, n'est pas touché par l'augmentation des prix de l'essence, a priori. Comment vous choisissez les personnalités qui y figurent ? Comment est née cette idée d'un Gotha noir ? D'ailleurs, c'est un titre qui peut
interpeller
voire susciter une sorte d'agacement, non ?
Exactement.
Solange, c'est peut-être l'objectif.
Alors, en fait, il n'y avait pas forcément d'objectif en fait, de susciter... voilà, je dirais des discussions. C'est un terme qui a été choisi parce que quelque part, c'est aussi un Gotha. On voulait, en fait, cet ouvrage qui est né pratiquement dès les débuts du club, le premier exemplaire était en 2010, est né de cette idée qu'en France, justement, en France comme dans le monde, il y a énormément de préjugés vis-à-vis, je dirais, de cette diversité noire. Voilà, et on est peu mis en avant. Ou lorsqu'on est mis en avant, c'est dans les banlieues, voilà, les casses, les footballeurs, la musique, etc. Alors que le président du club Efficience, qui est le docteur Eddy Kamge, lui...
Il est dentiste,
il est médecin, et puis fréquenté d'autres docteurs. Et puis, voilà, les enfants de ses amis fréquentaient un autre univers. Et donc, un jour, dans son cabinet, j'aime bien raconter cette histoire, donc il y a une dame qui vient avec son enfant de 10 ans pour des problèmes de dents. Et puis l'enfant dit « Maman, mais le docteur, il est noir ». Donc, lui étant étonnant, en disant « Mais pourquoi cet enfant pense ça ?» Alors que moi, je connais d'autres docteurs noirs, et les enfants de mes amis ne diraient jamais ça. Donc, il a réalisé qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument mettre en lumière...
Il faut spécifier que l'enfant était noir.
Oui, l'enfant était noir, effectivement. L'enfant était noir, ça c'est très important. Donc, il fallait... Parce que ça signifie aussi que même les noirs ne pensent pas qu'il y ait de réussite...
Rattache la couleur de la peau à
voilà,
une classe
donc,
sociale.
Les préjugés touchent tout le monde, et les noirs y compris. Donc, il fallait absolument casser cette image en mettant en avant des parcours de réussite, autres que dans le football, la musique, le sport...
Alors, il y a qui dans ces 500-600 personnalités ?
Alors, dans ces 500-600 personnalités, il y a vraiment de tous les univers. À la fois la culture, vous avez des médecins, des cadres, des entrepreneurs, voilà, des jeunes, des moins jeunes, toute personne qui mérite de par leur parcours d'être reconnue, mis en lumière, pour que des jeunes, on en a une dans ce, aujourd'hui près de nous qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, mais qu'elle puisse savoir que
c'est possible,
et qu'elle peut se reconnaître et puis dans d'autres personnes qui réussissent et peut-être un jour faire la même chose. Donc c'était vraiment ça, c'est démentir les préjugés par l'exemple.
Alors, oui, moi je suis effectivement dans le Gotha noir depuis le début. J'ai été contactée par le docteur Eddy Kamge au début. Et c'est vrai que moi je me suis interrogée, puisque moi je n'aimais pas effectivement le communautarisme, hein, comme certains pouvaient parler. Et je me suis dit pourquoi je viendrais. J'ai aussi un cousin par alliance qui s'appelle Louis Georgetin, qui a créé le CRAN, qui m'avait demandé de venir. Et pareil, j'ai pas voulu, c'est le comité représentatif des associations noires. Je lui ai dit que j'accompagne, je soutiens, comme un peu ce que j'ai fait pour le club Efficience, j'accompagne, je soutiens, j'ai été marraine, mais je m'interrogeais. D'ailleurs, on s'est interrogé sur le terme Gotha noir, et moi-même, j'ai dit, est-ce que c'est la bonne chose et tout. Et il faut savoir que comme le CRAN, il y a eu le CRIF, bon, même si c'est pas du tout comparable dans la mise en œuvre et dans les réflexions qu'il mène, quand même, il y a le CRAN a voulu dire, on fait le CRAN et il y a eu le CRIF pour les institutions juives, et on fait le Gotha noir, comme on parle du Gotha juif. Alors, il y en a beaucoup qui et d'ailleurs, je pense qu'Aminata en parlera, qui se reconnaissaient pas. Je le comprends tout à fait. Moi, j'ai des amis, puisque
alors,
moi, j'aime bien parler
du
monde
pluriel. Vous êtes de père martiniquais, de mère vendéenne.
Et ma mère vendéenne. Donc, il y en a plein qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Qu'est-ce que tu fais dans ce Gotha noir? Ce qui m'a plu dans le Gotha noir, c'est deux choses. C'est d'une part la mise en avant de l'excellence, pas l'excellence pour l'excellence. C'est l'excellence aussi pour que les jeunes ou moins jeunes puissent se retrouver.
Avec un point commun, la couleur de peau.
Oui, non, attention, justement, j'allais y revenir, pas forcément la couleur de peau. Malheureusement, au départ, on avait discuté avec le docteur Eddy Kamge qu'on devait mettre beaucoup plus du monde pluriel, comme j'aime à le dire. Vous avez des personnes qui sont présentes dans le Gotha noir, qui sont de couleur de peau blanche, comme on dit, mais qui ont des origines de soit antillaise, soit africaine, soit autre, et qui, ce qui était important, c'est surtout son attachement à ce monde pluriel, ce mot cosmopolite.
Ouais. Alimata Fofana, le gotha noir pour vous, vous n'y figurez pas.
Hein. Pas non, encore. Pas encore.
Je n'y figure pas.
C'est vrai que je n'y
figure
pas.
Est-ce que c'est un bon outil pour rendre visibles les minorités?
L'explication que Solange nous a donnée, je trouve que c'est vraiment intéressant dans le sens où vous allez mettre en exergue les parcours de personnes, moi je dis aux faciès différents. Voilà, vous mettez en exergue ces parcours et c'est primordial. Ce qui est frappant en France, c'est que dans certains secteurs d'activité, il n'y a pas ou peu de personnes.
Je peux vous en parler dans le monde de l'entreprise.
Qui sont différents. Vraiment, moi, je parle vraiment de différence, parce que ce n'est pas qu'une question de couleur de peau.
Tout à fait.
C'est de la différence aussi liée pour les personnes asiatiques, pour les personnes handicapées. Là aussi, ce sont des personnes qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de voyager, moi, j'ai vécu un certain temps en Amérique du Nord, ces personnes, vous les voyez. Et ce qui est frappant, c'est vraiment cela. Et moi, à chaque fois, c'est ce que je me dis. Je dis, la France a un siècle de retard. Quand vous parlez de représentativité, c'est primordial. Moi, j'ai été enseignante en REP et en REP+.
En réseau d'éducation prioritaire, donc dans les quartiers sensibles en France.
Exactement. Et ce qui est frappant, c'est à quel point les élèves, moi je trouve ça même effrayant dans le sens où ils pensent qu'il y a des métiers qu'ils ne peuvent faire sous prétexte qu'ils sont différents. Et il faut dire la vérité que dans certains emplois, ou quand vous voulez rentrer dans certaines écoles, vous voulez rentrer à Sciences Po Paris, vous avez des tests de culture générale et il n'y a rien de plus discriminant que la culture générale.
En l'occurrence, Sciences Po Paris est une des rares grandes écoles à avoir complètement déverrouillé son concours pour permettre plus de diversité.
Oui, mais regardons les chiffres. Il y a quand même très très peu et c'est comme après pour l'ENA. Alors on se plaint à chaque fois en disant mais il y a très peu d'enfants d'ouvriers qui rentrent dans ce type d'école. Il faut partir de la base. Qu'est-ce qui fait que ces enfants n'ont pas accès à cela? Je pense que c'est vraiment la question, où le travail que vous faites de mettre la lumière sur ces personnes pour dire c'est possible. Si lui il y est arrivé, moi aussi je peux y arriver.
C'est exactement
et donc
ça
ouvre les portes. C'est-à-dire c'est important
Solange
pour les jeunes gens.
D'ailleurs, il faut préciser que les bénéfices qui sont suscités par la vente de cet annuaire, de ce gotha noir européen, reviennent ensuite pour financer des bourses pour des étudiants.
Exactement. Alors c'est intéressant justement de parler de Sciences Po, qui est une grande école finalement, et puis qui jusqu'à longtemps c'était que des élites. Effectivement, ça a été ouvert aussi pour pouvoir accueillir ces enfants, ces jeunes issus de banlieues. Et en fait, les bourses d'excellence, donc aujourd'hui le Club Efficience, en tout cas depuis plusieurs années, a fait un partenariat justement avec plusieurs grandes écoles, l'ESSEC, Centrale, Polytechnique et Sciences Po, afin de pouvoir sélectionner des jeunes méritants. Ce sont des jeunes qui sont intelligents, qui ont envie de faire des grandes écoles.
Et ils n'ont pas besoin d'être noirs.
Voilà. Et on n'a pas besoin de sortir d'une grande école
Exactement. Je suis docteur en économie et géographe.
Et ces jeunes ont peu de moyens. Et cette bourse, grâce aux bénéfices du gotha noir, sont reversées à ces jeunes, grâce à ces grandes écoles, pour les aider à financer plus ou moins leur parcours, acheter un ordinateur, aider à payer leur loyer, etc. Donc c'est vraiment l'idée de cette redistribution des bénéfices pour accompagner cette jeunesse qui peut évidemment ne pas être que noire.
Vous restez avec nous, dans quelques instants on va donner la parole à un ingénieur béninois arrivé en France à l'âge de 19 ans, et bien sûr vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde. On parle des minorités noires, de cette élite noire, puisque à la base on s'appuie sur la sortie tous les deux ans de ce fameux gotha noir qui est devenu gotha noir européen. On parlera aussi bien sûr des différences de perception, vous en parliez, Alimata Fofana, entre par exemple le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et la France. 33 1 84 22 71 71, 7 milliards de voisins, c'est en direct sur RFI.
Milliards de voisins, c'est sur RFI.
Hush, not child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. We'll be right back.
Moving Up, Curtis Mayfield chez 7 milliards de voisins, est en direct sur RFI. Et on parle aujourd'hui à l'occasion de la sortie du Gotha Noir européen qui sort tous les deux ans, un annuaire qui met en lumière les parcours des talents des diasporas africaines, caraïbéennes. D'ailleurs, ça aussi, c'est des termes qui peuvent être réfutés. En tout cas, on en discute avec vous, Solange Siyanje, puisque vous êtes la vice-présidente du club Efficience et qui publie donc ce fameux Gotha Noir. Guylaine Yerso, vous êtes économiste géographe et vous figurez dans le Gotha Noir. Alimata Fofana, vous êtes conférencière, écrivain, ex-enseignante. Écrivaine, c'est vrai maintenant. Bon, c'est vous qui choisissez, non ?
Je vous laisse le choix.
Et je voudrais qu'on donne... Alors bien sûr, on va parler de l'emploi parce que c'est le sujet majeur pour les minorités, pour la visibilité aussi des minorités noires dans un pays comme la France, mais aussi ailleurs. On va donner la parole à Fod Adam Ousounou. Bonjour Fod Adam.
Fod Adam Ousounou.
Oui, bonjour. Vous êtes béninois, vous êtes arrivé en France à l'âge de 19 ans. Juste une petite parenthèse, bac à 16 ans au Bénin, classe préparatoire au Maroc. Vous avez réussi le concours d'une grande école d'ingénieurs, École nationale de l'aviation civile, l'ENAC. Vous êtes maintenant ingénieur chez Airbus. Est-ce que pour quelqu'un comme vous, vous êtes jeune, vous êtes ultra diplômé, est-ce que vous avez connu, vécu des freins dans votre parcours, Fod Adam Ousounou?
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Les freins, je n'ai pas eu vraiment parce que j'étais pas dans le blocage intellectuel qu'on pouvait vivre en étant de banlieue ou en vivant en France. Donc globalement, les freins, au contraire, je trouvais que c'était un parcours roule libre en fait. Après avoir intégré l'ENAC, à la fin de mon cursus, j'avais eu un stage. Et trois mois avant la fin de mon stage, au milieu de mon stage, on m'a fait déjà une première embauche. Donc ça allait beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu espérer. Donc je n'ai pas eu à chercher boulot à la fin de mes études.
Parce que vous êtes ingénieur, parce que vous êtes sur un secteur en tension qui manque toujours d'ingénieurs et parce que vous sortez d'une grande école.
C'est important de le signaler, oui.
Oui, c'est bon, tous les étudiants français ou étrangers de l'ENAC n'ont pas eu cette chance-là d'avoir en anticipation.
Néanmoins, quand vous dites j'ai pas eu de blocage intellectuel, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire par là, bon, il y a deux volets. Le premier volet, c'est que mes parents, ma mère est enseignante, donc elle était instruite et donnait du savoir aux gens, première chose. Mon père était brillant à l'école. Quand il était à l'école, il était brillant. Donc ces deux, mais déjà à la maison, j'avais deux références qui me permettaient de me dire que bon, je pouvais être un élève et d'être brillant à l'école.
Ouais. Et donc ça veut dire que quand vous arrivez en classe prépa au Maroc, où déjà les personnes de couleur noire ne sont pas très nombreuses, j'imagine.
Non, au Maroc, on n'était que deux.
Vous étiez deux, d'accord. Okay. Donc en fait, vous êtes dans vos maths, vous révisez, vous bûchez, vous travaillez, vous ne vous posez pas de questions.
Non, en fait, c'est ce que je dis. Je me suis jamais posé la question de me dire que j'aurais des blocages dans mes études ou pour réussir. Ce que je disais, l'environnement initial comptait beaucoup. Le fait de se dire que autour de moi il y a des gens qui sont brillants, autour de moi il y a un différentiel au niveau des études qui fait que les gens ont une condition de vie meilleure que d'autres, c'est des éléments qui incitaient à se dire il faut étudier, il faut continuer.
Et votre entrée sur le marché de l'emploi n'a posé aucun problème. Vous avez une sœur architecte au Brésil, est-ce que vous comparez quand vous discutez tous les deux vos situations en tant que minorité dans ces deux pays?
En fait, c'est mon frère qui a acheté. Au Brésil. C'est mon frère qui a acheté. Ma soeur.
Pardon, c'est votre frère.
Ma soeur est statisticienne. Donc, la comparaison, bon, lui considère qu'il y a, beaucoup. Il subit plus le fait qu'il soit de la minorité visible au Brésil. Et on vit la même chose. Hein. Lui considère que les Noirs au Brésil n'ont pas des positions intéressantes ou ne sont pas partie de l'élite. Ça le choque d'être seul dans son environnement. Moi aussi, j'étais choqué quand j'étais venu à l'ENAC. Sur trois promotions adjacentes, on avait trois Noirs issus du continent africain. Mmh. Un Béninois, un Sénégalais, un Camerounais, sur trois promotions. Donc c'était choquant aussi de se rendre compte que dans des écoles, dites grandes écoles, il y a très peu Béninois, d'Africains qui sont dans cette école-là.
Et Alimata Fofana veut vous questionner.
Je pense qu'il y a une... Faude a mis en exergue quelque chose de très important quand il dit que ses parents ont eu accès à l'instruction et à l'éducation.
Il était dans l'environnement.
Il était baigné de ce monde-là. Et quand on compare, quand il disait avec les personnes qui vivent en banlieue, on ne peut pas comparer. Parce que souvent, ces enfants-là, les parents, quand ils arrivent, il n'y a pas un niveau d'instruction très, très fort, très élevé, forcément. Et il y a aussi la question de l'identité. Ça veut dire que Faude, quand il arrive au Maroc, il sait qui il est. Nos jeunes gens en banlieue, ils ne savent pas qui ils sont. Et donc, il y a déjà ce travail à faire, ce travail identitaire. Qui suis-je quand... D'un côté comme de l'autre,
ça a
de
été
l'océan
votre cas,
Atlantique.
Vous, Alimata.
La question de savoir qui j'étais.
À l'époque, vous aviez une vingtaine d'années.
Oui, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, dans le sens où quand on est en France, on nous dit bah non, t'es pas vraiment français. Et quand vous allez dans le pays de vos parents, on vous dit bah non, t'es français. C'est-à-dire que cette espèce de dédoublement, mais t'es qui? Mais quand tu quittes les deux territoires, là, c'est là que tu découvres qui tu es réellement. Et c'est ça toute la difficulté des jeunes gens. C'est d'un côté, on leur dit, non, vous n'êtes pas français. Et de l'autre, on vous dit, si, t'es français. Ouais. Comment se construit-on on est parfois entre ces deux mondes?
Ça veut dire pour vous, Faude Adam Oussounou, alors vous, du coup, vous vous êtes construit, une fois arrivé en France, avec quel modèle finalement? Au Bénin, d'accord, le modèle de vos parents, mais ensuite?
Non, au Bénin, ce n'était pas que le modèle de mes parents. Ce que je disais, mes parents, les conditions familiales me donnaient un privilège de l'éducation.
Oui, c'est ça la différence.
Quelque chose d'important. Et autour de moi aussi, j'avais des gens qui étaient diplômés en France, qui étaient rentrés, ou qui étaient professeurs d'université, qui étaient directeurs de Sheraton. Voilà. Et donc j'avais ce côté-là, ce deuxième volet-là qui m'était important. Et le troisième volet qui était important, c'est le fait que je m'intéressais à la culture générale et que j'avais découvert des Noirs, aux Béninois qui ont réussi à l'ENA, le président de son groupe en l'occurrence, ou des hommes politiques d'origine africaine, des Sénégalais et autres, qui ont fait des parcours d'excellence en Europe, en France. Donc moi, dans ma tête, j'avais pas de barrière.
Il y a des modèles.
Il y a des modèles que j'avais et j'avais pas de barrière dans ma tête pour me dire que intégrer l'ENA, faire être chef de bus ou faire des grandes sociétés en Europe, j'avais pas de blocage à ce niveau-là.
Et dans 10 ans, vous vous voyez où, Faude Adam Oussounou?
Dans 10 ans, je me vois à plusieurs endroits, mais le challenge est assez délicat. Au sens où, avant d'entrer chez Abus, comme j'aime bien le dire, et j'aime bien raconter ça en anecdote pour donner un exemple aux gens, j'ai jamais envoyé un CV chez Abus avant d'être embauché chez Abus.
Oui.
Voilà. Donc c'est assez important de se dire qu'on peut être noir et avoir un cabinet de recrutement qui vient vous chercher en étant... inspirer à Ibis. Ça, c'est important. Et après, dans 10 ans, je vois des choses plus importantes qu'aujourd'hui, j'espère. Les ambitions sont grandes. Ouais. Le chemin est dur, mais...
Jusqu'à maintenant, ce que vous nous expliquez, c'est que vous avez eu autant de facilité que les autres de votre promotion pour vous insérer sur le marché de l'emploi. Exactement le même tapis rouge, si j'ai bien compris.
Même plus.
D'accord. Bon, vous avez la baraka. mais dans 10 ans, est-ce que vous pressentez un plafond de verre? Est-ce que vous aurez envie de crever ce plafond de verre sur d'autres continents, dans d'autres pays, de partir à Londres, de partir... Alors, vous êtes ingénieur aéronautique, alors forcément, il faut que vous alliez... J'imagine dans des pays où il y a des savoir-faire aéronautiques, mais...
C'est normal, c'est l'élite, c'est la CSP, c'est...
Mes élèves, ils ne savent pas qui est Senghor. Ils ne savent pas. C'est-à-dire, quand on parle de transmission,
Mais c'est bien qu'on parle des deux.
Oui, mais il faut dire que moi, mes élèves ne savent pas qui est Senghor. Comment voulez-vous qu'ils le prennent comme modèle s'ils ne savent pas qui est cet homme-là? C'est ça aussi la difficulté de se rendre compte qu'il y a aussi de grands écrivains africains. Mais on manque de cela. Dans les programmes scolaires, et en littérature, on en parle très très peu de ces
auteurs. Ayons raison, gardez, s'il vous plaît. Si vous, c'est aussi, vous avez tout à fait raison, et on voit bien, Faude le met en exergue, et nous, on pourrait aussi, c'est la CSP, c'est par rapport au territoire. Vous dites, effectivement, des jeunes, moi je suis aussi donc chez les Petits Débrouillards, éducation populaire par les sciences pour les sciences, et on a fait toute une campagne sur être humain, et on continue, vivre ensemble. Bien évidemment, je fais les mêmes constats, je peux faire les mêmes constats quand je vais des fois en ruralité, quand je vais dans certaines périphéries et que je fais référence à des jeunes qui n'ont pas effectivement d'assises historiques, d'assises géographiques, d'assises économiques et sociales. La question, c'est les gens doivent se connaître, connais-toi toi-même, que ce soit des jeunes issus du monde pluriel, issus de la diversité, qui viennent d'Afrique, qui viennent de Chine. C'est en France la difficulté qu'on a aujourd'hui, alors que c'est un pays qui est ouvert sur les 5 continents, il faut quand même se le rappeler, deuxième puissance par les...
Je termine.
Ce qui est important, c'est normalement, au contraire, on devrait voir ce monde pluriel beaucoup plus en avant. Cette richesse de territoire, cette richesse des territoires mise en avant, et faire savoir, ou là où vous avez raison, Aminata, il faut que l'enfant, quel qu'il soit, quel milieu qu'il vienne, qu'il sache ce que c'est, que le monde, que c'est. Quand je vois des fois des cours pour les enfants, il y a une restriction de la connaissance. Mais ce n'est pas spécifique, malheureusement, ce n'est pas spécifique.
Quand vous dites, est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Quand vous dites, il faut que les enfants sachent d'où ils viennent, en même temps, la question la plus compliquée, c'est quand on pose la question à une personne française noire, quelles sont tes origines? C'est une question qui est très mal vécu.
En fait, pas pour moi.
Je pense que la manière de le vivre va dépendre de la personne et puis surtout son appréhension d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire?
Sa propre histoire.
Quand vous allez rencontrer en fait des noirs diverses, moi j'emploie le terme noir parce que je me reconnais en tant que noire et je n'ai pas de problème avec ce terme. Mais ça va dépendre de l'appréhension de chacun, son acceptation d'elle-même. Moi, quand on me demande de quelle origine je suis, évidemment, il ne faut pas que ce soit le premier terme avant bonjour. Je n'ai aucun problème.
Oui, vous préférez quand même qu'on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie,
voilà, exactement.
Où est-ce que tu habites.
Mais je ne me sens pas vexée par cette question parce qu'aujourd'hui, quand je marche, on voit que je suis noire et je me reconnais en tant que telle. Et si on me demande d'où je suis, bon, je suis d'origine du Cameroun, bien que j'ai la nationalité française.
Alors pour moi, Faud Adam Ousounou, je suis métisse. Oui,
alors on va y revenir, Guylaine Hirsault, mais Faud Adam Ousounou, je ne vous ai pas laissé suffisamment, ou plutôt vous avez été interrompu par nos invités qui voulaient rebondir sur ce que vous disiez. Mais dans 10 ans, du coup, vous voyez où? Je ne parle pas du nom de l'entreprise, hein, bien sûr, mais sur quel territoire? Est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous, Faud? Ah, il a coupé. Bon, il est parti. Bon, ouais. Il est très occupé. En tout cas,
tout
merci à lui d'avoir été en ligne avec nous.
Mais tout à l'heure, quand on revenait par rapport aux enfants, quand on parlait par rapport aux enfants, ou quand on parlait aussi de la question de l'identité et de tout cela, c'est aussi qu'est-ce qu'on leur transmet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi de la part des parents, moi je vois... Quand vous parlez même de la guerre d'Algérie ou quand vous parlez des questions assez sensibles, parfois c'est tabou dans certaines familles. Et donc, les enfants savent qu'ils sont originaires de tel pays, mais ils sentent un mal-être, mais ce n'est pas nommé. D'accord. Il y a aussi cette difficulté-là en tant qu'enseignant, ce que nous devons aussi leur transmettre, c'est aussi cette histoire-là.
Afin qu'ils puissent se construire, mais quel que soit l'enfant, il faut qu'ils puissent se construire. Moi, vous voyez, je suis métisse.
Mais je pense que pour certains, c'est plus difficile.
Vous voyez, je suis métisse, donc je suis vendéenne et martiniquaise. Nous, on n'a jamais eu de problème parce qu'on a beaucoup parlé de tout ça quand on était jeune. Enfin, je parle pour moi, je ne vais pas parler de toute une famille. Mmh. Et mon fils... mon fils, son père est moitié corse et juif du pape d'Avignon. Donc, comme il dit, je suis une salade, un mélange, et il le prend, c'est positif, il le prend, il utilise toutes ses origines pour faire un plus. Et ce qui est important... Ce qui est important, oui, mais c'est important. Moi, je côtoie beaucoup des jeunes comme vous aussi par les petits libraires. Ce qui est important, c'est qu'on fait reconnaître à l'enfant qu'il puisse se construire et lui dire tout ce qu'il représente, c'est important. Moi, j'ai vu un petit enfant, il me dit, mais moi, je suis pas beau parce que je suis noir. Vous savez, c'est violent, puisque moi, je me reconnais aussi, même en tant que métisse, mon père était antillais, noir et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, regarde. Et je lui dis, mais écoute, je l'ai pris par la main et je lui ai expliqué comment il devait se construire. Mais bon, bien sûr, en une heure, je ne peux pas, bien évidemment.
Mais ce n'est pas qu'une question d'eux-mêmes par eux-mêmes. Ça va au-delà. C'est un fonctionnement sociétal.
C'est déjà important.
Au-delà de l'individu.
Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe. Vous savez que personne ne peut dire. C'est important quand on se reconnaît, qu'on se connaît, qu'on arrive à se construire, mais on est plus présent.
On peut élargir le débat au-delà de l'Hexagone, si vous le voulez bien, selon Siyanje, Guylaine Yarso et Alimata Fofana, parce que le Gotha noir s'appelle maintenant le Gotha noir, non plus le Gotha noir de France, mais le Gotha européen. Et j'aimerais que vous nous disiez aussi comment les élites que vous avez incluses dans ce nouveau Gotha noir européen, puisqu'il y a à peu près 500-600 noms, comment elles se sentent dans la société, qu'elles soient au Royaume-Uni ou ailleurs dans d'autres pays d'Europe. On y revient et bien sûr vous pouvez participer au débat au 33-1-84-22-71-71.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alimata Fofana, vous avez vécu au Canada, vous êtes donc de parents sénégalais, vous êtes française, née en France, vous avez fait toute votre scolarité en France et ensuite vous êtes partie comme plein de jeunes.
Je suis partie vivre le rêve américain.
Voilà, vous aviez envie de voir autre chose.
Je pensais que l'herbe était plus verte là-bas.
Oui, mais ça beaucoup. qu'est-ce que vous avez vécu en tant que personne noire sur le continent nord-américain, comment ça nourrit votre réflexion puisque vous êtes une personne qui mouline beaucoup hein, sur toutes ces questions d'identité.
Je dis souvent, même à travers mes conférences, lorsque je vivais au Canada, j'ai oublié que j'étais noire. Dans le sens où, durant les 5 années là-bas, il n'y a pas une fois où on a fait une réflexion sur ma couleur de peau. Et je me souviens au début, quand j'arrivais de la France et que je cherchais un appartement, alors je téléphonais. Alors on m'entendait, vous êtes française, oui, parce que je n'ai pas d'accent québécois. Et moi, je leur disais oui, mais je suis originaire du Sénégal, pour qu'ils sachent qu'il allait avoir face à lui une femme noire et pas une blonde aux yeux bleus. Et après coup, quand j'en parle au propriétaire, elle me dit, mais on s'en moque du moment que tu es capable de payer ton loyer.
Voilà.
Et je dis souvent, le fait d'avoir vécu en Amérique du Nord, c'est là que je me suis mise à écrire. Je pense que si j'étais restée en France, j'aurais cru que l'écriture n'était pas pour moi. Et être dans ce continent où vous sentez que tout est possible, voilà, il n'y a pas de limite.
Ton esprit s'est ouvert, en fait.
Exactement, c'est là où je me suis dit, bah oui, t'es capable. Et moi, j'ai une grande admiration pour Oprah Winfrey. Quand vous voyez la carrière, c'est ça aussi qui fait que ça m'a donné la niaque.
Alors, le Gotha noir qui est devenu le Gotha noir européen, selon Siyanje, qu'est-ce que ça montre par rapport à l'édition qui était purement franco-française?
En fait, on a eu envie de s'étendre à l'Europe et pourquoi pas un jour dans le monde, parce que cette réussite, en fait, cette élite, elle n'est pas qu'en France. Elle est, même si c'est vrai que la diaspora africaine est plus nombreuse, voilà, en France, hein, on sait qu'en Europe, c'est le pays qui regroupe le plus grand nombre de personnes originaires d'Afrique subsaharienne, puisque c'est le Gotha, c'est l'Afrique subsaharienne, et puis évidemment... Laisse-moi finir, Guylaine. Évidemment, les Antilles, etc.
Ouais, mais au Royaume-Uni, il y a toute une diaspora noire, c'est-à-dire subsaharienne et caribéenne, bien exactement. Évidemment, la Jamaïque,
donc,
tout
donc,
ça.
Voilà, on a évidemment l'Italie, l'Espagne, voilà, l'Angleterre, l'Allemagne, la Maroc, Belgique, la Suisse.
Mais qu'est-ce qu'il en ressort?
Et ce qu'il en ressort, c'est qu'en tout cas pour les personnes dont les parcours sont décrits, bon, on a beaucoup parlé en fait de ce problème d'identité, mais je dirais que c'est un problème d'exemplarité. Et justement, je pense que si Aminata avait découvert cet ouvrage, avait vu voilà qu'il y a des écrivaines noires qui font elle aurait peut-être eu un exemple. Et donc l'idée en fait, c'était vraiment de s'étendre à l'Europe pour montrer qu'il y a une élite partout en Europe.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Gaspard.
Oui, bonjour.
Vous êtes en région parisienne. Vous souhaitez réagir aux propos que vous avez entendus tout à l'heure de notre ami ingénieur dans l'aéronautique, Fodadon Oussounou, qui nous a quittés, qui était au téléphone. Et d'ailleurs, il a rappelé pour dire, non, où je me vois dans 10 ans, parce qu'il était un peu pris de court par la question. Il a dit, en fait, je me vois, j'ai aucun frein, aucun plafond de verre, mais je me vois plutôt sur le continent africain. Il est béninois, hein, Fodadon Oussounou. Et vous souhaitiez nuancer son succès ou sa réussite?
Oui, non mais sa réussite, elle est nette, hein. Bon mais ça, tel qu'il l'a décrit, bon mais c'est très bien, Mais je voulais tout simplement ajouter que, vraiment en tout cas, son cas n'est pas du tout représentatif de celui qu'on trouve dans la minorité, noire ou autre, hein, vraiment en tout cas en France.
D'accord, voilà. On est bien d'accord. Non, mais si on prend les statistiques,
oui,
effectivement.
On peut qu'être d'accord, bien sûr.
Merci Gaspard de nous avoir appelés.
C'est bien le problème.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, les polémiques qu'on trouve et les débats sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître des expressions, des mots nouveaux, Guylaine Yerso, comme le mot racisé, le mot racisme d'État, à l'heure actuelle, oui, qu'est-ce que vous faites? Vous dites c'est insupportable.
Ah oui, non, mais le mot racisé, l'autre jour, j'étais dans une réunion de femmes avec à Libération, à l'Assemblée nationale, racisé, et surtout, il y a une journaliste qui posait la question.
C'est un mot qui est repris dans la presse. Hein.
Qui est racisé, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est tous, la sémantique, on est tous racisés. Soit on l'est tous, soit, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est ethnicisé, racisé, ça va. Et puis, pareil, vous avez fait allusion.
C'est des mots qui sont repris par le journal Le Monde aujourd'hui.
C'est ce que je vous dis, j'étais aussi, c'est pas parce qu'ils sont repris que nous les reprenons.
Du coup, je vous pose la question.
Je veux dire, dans l'assistance, effectivement, c'était une journaliste qui portait la bien-pensance, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, si la personne à côté d'elle est racisée, elle est quoi? Alors, je veux dire, c'est parce qu'elle est blanche, elle n'est pas racisée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Solange Sayanger, vous êtes sur la même longueur.
Vous avez posé une autre question.
Ça me fait beaucoup rire, en fait. Parce qu'on emploie tout.
Oui.
Pour éviter d'appeler les choses par leur terme.
Voilà.
Je suis noir, tu es blanc, tu es asiatique,
blonde,
etc.
Blonde, etc. Décolorée.
Mais pourquoi on a tellement de difficultés avec ce terme noir? Je sais pas. Je sais pas.
Chinois, japonais.
Chinois ou maghrébin.
C'est
dites-le,
propre à la France
dites-le,
ou pas?
Dites-le.
C'est très, c'est ce que
mais
je
non, mais oui, c'est, voilà. C'est ça, ce sont des
on
termes très,
tout,
très français, comme vous dites.
Coloré, machin, c'est
dans le sens
appeler,
où je pense, c'est parce qu'on a peur des mots.
On a peur des mots,
mais je pense que c'est ça derrière.
On est dans une hypocrisie.
Mais c'est surtout, souvent, c'est des gens qui, sur la bien-pensance, le mot racisé, c'est.
Oui, mais moi, je l'ai entendu utiliser plutôt par des associations qui défendent les minorités.
Oui, c'est ce que je vous dis. Et moi, ça me révolte. Et vous avez parlé de l'autre mot, vous pouvez me le rappeler, que vous avez parlé
racisme d'État.
Le racisme d'État. Alors là, c'est pareil. Bon, moi, j'ai mon petite histoire au Conseil national du numérique. Quand Rokhaya Diallo moi, j'ai été membre du Conseil national du numérique. Il y avait Bertrand Naoum, qui est aussi issu, je crois qu'il est béninois ou gabonais, je ne sais plus, qui est congolais, pardon, qui est un grand patron d'entreprise. Il était aussi membre du Conseil du numérique. Et le fait qu'on retire, qu'on critique la présence de Rokhaya Diallo, que moi-même j'ai critiqué aussi, parce que non, pas critiqué en tant que Rokhaya Diallo.
Mais critiquer qu'on retire sa présence, qu'elle se fasse virer du Conseil ou pas? Quelle était votre position?
Oui, parce qu'on estimait qu'il y avait tout un tas de personnes qui pouvaient être au Conseil du numérique et que Rokhaya Diallo, sur ce sujet-là, n'avait pas lieu d'être. Bon, voilà.
Et pour quelle raison elle n'avait pas lieu d'être?
Elle n'avait pas lieu d'être au vu des thématiques que nous abordions au sein du Conseil du numérique. On était là plutôt pour débattre du dissensus, du consensus sur les sujets du numérique et n'avait rien à voir avec le racisme d'État quand elle n'a pas été prise en compte. Si vous voulez, on fait des bagarres quand il n'y a pas lieu. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord qu'elle y soit, le débat est légitime. Mais après, qu'on n'invente pas des prétextes.
Non, mais le racisme d'État, je crois qu'elle utilise ce terme pour autre chose.
Hein. Non, mais là, en l'occurrence, il avait été utilisé, en l'occurrence, par Daniel Schneiderman aussi dans un article à la fin de. Et je trouvais ça complètement. Je dis, le racisme, c'est trop important pour qu'on eût. Est trop important, trop difficile pour qu'on ne l'utilise pas à tout vent.
Alors on arrive bientôt au terme de ce débat, Solange Sayanger, Guylaine Yerso et Alimata Fofana. Aujourd'hui, comment vous voyez la nécessité pas d'aplanir le débat, mais en tout cas de le rendre plus lisible, plus clair, avec une meilleure liberté d'expression et plus pacifié aussi,
Sayanger.
Ouais. Alors en fait, je pense qu'en France, je n'aborderai pas le racisme d'État sur lequel, c'est pas que je n'ai pas d'opinion, mais on n'en parlera pas. Je dirais qu'en fait, Faude est un bel exemple pour moi, parce qu'au-delà de sa couleur, de ses origines, je le connais physiquement aussi, de son accent, peu importe, ce garçon a réussi. Il a, voilà, il ne s'est pas laissé, je dirais, enfermé dans une couleur, ni dans une origine. Il s'est dit, bah, j'ai mes chances, voilà, ouais. Il a fait ses études.
Mais
et
est-ce
il a réussi.
Qu'il faut obligatoirement être super doué et sortir d'une grande école pour échapper?
Mais en fait, je pense que l'excellence, ça c'est très important en fait. L'excellence est importante à tous les niveaux. Elle est encore plus importante lorsque justement on peut avoir ces freins dus aux préjugés. On se doit d'être encore plus excellent.
Comme pour le...
Et si on fait un maximum, je pense pour l'être, on aura plus de chances de réussir. Mais c'est sûr. En tant que noir, j'ai compris que j'avais plus de travail à faire.
Moi, je vais dans votre
sens. Exactement.
Et donc,
il ne faut pas se dire bon, la société est cruelle, elle est injuste, etc.
Halima Tafofana, vous qui êtes née de parents sénégalais, il nous reste vraiment une minute. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous avez dans vos classes
Que j'avais dans mes classes, moi, je leur disais on ne va pas te faire de cadeaux.
C'est ça.
On ne va pas te faire de cadeaux. Il va de soi qu'il va falloir que tu en fasses plus que les autres parce que tu es différent. Il y a cette réalité.
D'où cette excellence obligatoire.
Moi, je me souviens, quand j'étais petite, mon père, il me disait, bah, comme t'es noir, tu dois travailler 10 fois plus que le blanc pour arriver au même niveau.
Comme disait mon père, il ne faut pas donner du bâton pour se faire battre.
Et il s'avère que... Mais après, tout dépend. Parce que moi, dans le domaine de la littérature, je vous garantis qu'on ne vous fait pas de cadeaux. Et encore plus quand vous avez un faciès qui est différent.
Exactement.
Parce qu'on vous attend au tournant et on part du principe.
Et les jeunes, ils n'en ont pas marre qu'on leur serve ce discours-là.
Ils n'en ont pas marre, mais je vous rappelle... Dans les banlieues, ce n'est pas le discours qu'on leur sert. On ne leur dit pas « il faut que tu bosses 10 fois plus ». Au contraire, on essaye de... Moi, je trouve que c'est un des problèmes.
On essaye de les
victimiser. Et moi, je pense que là, c'est
très mauvais, cette victimisation, justement. Je pense que le problème, aujourd'hui, de cette société, c'est aussi que les Noirs sont victimisés. Il faut arrêter, il faut sortir de ça.
Exactement.
Se dire, c'est la société, c'est un constat.
C'est le monde.
Donc, je me lève et je me bats.
Voilà. Chacun est responsable de sa vie.
Exactement.
Ce n'est pas l'État qui est responsable de votre vie.
Ça, c'est très nord-américain.
Mais c'est un discours qui est hyper important aujourd'hui.
C'est pas
il faut
américain,
se prendre
je vous
en
rappelle
main.
Que c'est connais-toi toi-même, c'est Socrate. Et donc, c'est important, c'est aller au fond de soi-même, se reconnaître et dire à tout le monde, quel que soit, vous pouvez être pâtissier, boulanger, serrurier, sportif, acteur, actrice, tout... Grand chef d'entreprise, moi j'ai travaillé dans un grand groupe, on peut dire aussi, et vous y avez fait allusion, quand j'allais au Royaume-Uni, que j'allais partout dans le monde, franchement c'était multiple, c'était pluriel, dès qu'on est en France, sur la France que j'adore, qui est mon pays, que j'adore, qui est magnifique, il y a la spécificité tout de suite qui est mise en exergue.
Bon, alors en tout cas, il faut découvrir la nouvelle édition du Gotha Noir européen. Merci à vous, Solange.
Voilà, disponible sur le site internet du Club Efficience, à la FNAC également.
Et on va mettre tous les liens sur notre page. Merci à vous, Guylaine Hierso, et merci à vous, Halima Tafofana. Vous reviendrez pour le deuxième roman que vous préparez et le documentaire. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. Quelle scolarisation pour les enfants étrangers qui arrivent sur le territoire français, qui ne parlent pas la langue. C'est un sujet sensible. Alors que la polémique sur les mineurs étrangers et le durcissement des conditions d'accueil ne cessent d'être dénoncées. À demain.